Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine Garde à Rem la Terre sur Radio Albigès. Le 26 octobre 2020, c'était le 6e anniversaire de la mort de Rémi Fraisse. La veille de cette triste date et comme chaque année depuis 6 ans maintenant, un rassemblement était organisé à Sivens, sur la zone humide du Testé. Un rassemblement à la mémoire de Rémi, en soutien à sa famille qui se bat pour obtenir justice dans cette affaire. Un rassemblement des luttes d'ici ou d'ailleurs, contre les projets destructeurs de la nature et contre les violences policières. Dans le magazine d'aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les prises de parole qui ont eu lieu le 25 octobre 2020, en début d'après-midi, à la maison forestière de Sivens. Vous entendrez un point sur le projet de barrage redimensionné qui se dessine et qui pourrait voir le jour sur le même lieu qui a été défendu et où Rémi Fraisse a été tué. Vous entendrez aussi un retour sur les faits qui se sont déroulés ce 26 octobre 2014 et sur l'instruction judiciaire en cours. Et puis un témoignage à propos d'une autre lutte qui s'organise, une lutte contre un projet de méga-scierie qui pourrait voir le jour à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et qui entraînerait la destruction de plusieurs hectares de forêt.
Les amis, nous allons commencer les prises de parole. Si vous voulez vous rapprocher, et à l'issue des prises de parole, nous descendrons sur la zone humide. Nous en ferons le tour avec une amie du FNE qui nous fera part de l'évolution de cette zone humide et de son intérêt pour la biodiversité. Dans un premier temps, on va laisser la parole à Christian Pince, qui est représentant du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testé et qui va nous faire le point des discussions qui se déroulent et auxquelles il participe dans l'instance de co-construction.
Donc moi, je suis représentant de l'île Environnement, qui est l'association de l'île sur Tarn, qui a commencé à alerter sur le projet de barrage. Voilà. Et donc, ça fait maintenant presque dix ans, qu'on est dans cette bagarre qui n'est pas qu'une bagarre, contre, mais qui est une bagarre pour changer pour un autre monde. Hein. Et donc, notre bagarre, elle se situe dès le départ, pas contre, mais pour essayer de construire autre chose qui revient vers de la paysannerie, vers de l'agroécologie, vers une autre agriculture, un autre modèle agricole, une autre alimentation, une autre façon aussi de vivre, quelque part. Voilà. Et donc, on est depuis maintenant plus de 3 ans dans le fameux projet de territoire qui doit accoucher de je sais pas quoi, parce que j'en sais pas plus que vous là-dessus, du résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a encore des positions de certains qui est on veut à tout prix un barrage à Sivens, ça c'est sûr. Hein, il y en a qui parlent de 1 million, il y en a même qui parlent de 1,5 million. Ça, c'est des positions de certaines personnes. Tous ne sont pas sur ces positions-là. Nous, depuis... Alors, quand je dis nous, c'est un ensemble d'organisations qui participent au projet de territoire. Il y a la Confédération Paysanne, Tarn et Tarn-et-Garonne, il y a Nature et Progrès, il y a le collectif Testé, bien entendu, il y a l'UPNET, qui est la fédération du Tarn de FNE Midi-Pyrénées, il y a FNE 82, il y a l'île Environnement que je représente. Et donc, on est tout un ensemble d'acteurs qui avons travaillé à proposer autre chose. Vous savez qu'à un moment donné, ils voulaient faire des solutions alors qu'on n'avait pas étudié les besoins. Hein. Donc, on a réussi à faire en sorte que les besoins soient étudiés. Les besoins sont étudiés, mais ce n'est pas encore selon la démarche de la directive sur les projets de territoire. Il manque encore des éléments qu'on demande. Et là, on peut dire que l'État, il se doit de respecter l'instruction gouvernementale du projet de territoire. Et nous, on fait en sorte que et ben qu'ils le respectent. Et vous tous, donc vous avez le droit à l'information, et vous tous, vous aidez à ce que l'État respecte sa parole sur ce projet de territoire. Donc, s'il y en a qui ne sont pas au courant, on a proposé en septembre, donc on a travaillé cet été, tout ce groupe dont je vous ai parlé, on a travaillé à un scénario alternatif, pas un scénario alternatif, parce qu'il n'y a pas d'autre scénario actuellement, un scénario qu'on a appelé agroécologie et ressources en eau. Alors ceux qui ne l'ont pas vu ou ne l'ont pas lu, ils peuvent aller sur le site du collectif. Sur le côté gauche, il y a les solutions, il y a un scénario. Vous regarderez sur le bandeau de gauche, on a mis le scénario. Donc vous pouvez le lire. Hein. Et donc on essaye de faire valoir ce qu'on a appelé, dans un genre de slogan, un scénario gagnant-gagnant, dans lequel il y a un peu plus d'eau, mais de manière raisonnée, raisonnable et justifiée, et qui ne met en contrepartie, on peut dire qu'il n'y a pas de, y a pas d'atteinte à la zone humide et il n'y a pas de barrage. Il y a des discussions en ce moment qui se mènent. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas quelle sera le résultat et à quoi ça aboutira. Mais j'ai quand même assez espoir, enfin, en tous les cas, c'est pour ça que je me bats depuis le début, qu'on arrive à une solution qui ne revienne pas à un genre de, comment ça s'appelle, de guerre civile sur le territoire, parce qu'il y a eu des oppositions fortes. Il faut savoir qu'il y a un problème entre des citoyens, et puis il y a eu un problème avec l'État qui a voulu imposer le conseil départemental et tout ça, mais il y a aussi des dissensions au sein des gens, de la population, et donc il faut arriver à dépasser ça, parce que nous on veut pas une guerre civile, hein. C'est clair, hein. Et donc on veut absolument trouver une solution. Maintenant, nous on a fait un pas et on a dit à l'État, on a fait une proposition. Cette proposition étudiée-là, si vous avez d'autres propositions, on est prêt à en discuter. Mais la FNSEA demande plus d'eau. Nous, on pense qu'il n'y en a pas besoin, mais il y en a déjà suffisamment. Il faut savoir qu'ils ont évalué à 3 100 000 le volume qu'il y a besoin. Sur le bassin, il y a 5 300 000 mètres cubes qui est stocké. Il y a 5 300 000, c'est déjà un volume très important, hein, qui est stocké. Alors, il n'est pas forcément toujours bien réparti, donc il peut y avoir des problèmes. Et nous, ce qu'on défend, ce n'est pas de se concentrer sur quelques agriculteurs le long de la rivière, mais de regarder tout le problème de tous les agriculteurs, hein, des agriculteurs qui sont sur tout le bassin. Il y a un point d'achoppement qui a, je crois que la conf, elle est très, très attachée à ça. C'est un point d'achoppement, c'est qu'ils ont fait une étude de besoin, mais ils n'ont pas interrogé les gens directement. Il y a eu une enquête de fait, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui ont vraiment des besoins, eh ben, ils se déclarent, ils disent « j'ai des besoins pour tel volume et à tel prix ». Alors, ce qu'ils voudraient aussi, là où il va y avoir un point d'achèvement, c'est qu'il y a une volonté que tout soit gratis. Enfin, tout soit gratis. L'investissement soit gratis, soit pas payé par les bénéficiaires. Et ça, pour nous, il n'en est pas question. Hein. L'eau, ça coûte très cher. Ça coûte de plus en plus cher. Et il n'est pas question qu'elle soit gratuite. Elle peut être un peu subventionnée, mais pas gratuite. Donc là, il y a encore du travail à faire. Je ne sais pas exactement quelle sera l'issue. Il semblerait qu'il y ait la volonté quand même au sein des services de l'État d'arriver à une solution qui ne porte pas atteinte à la zone humide et à des solutions qu'on a appelées, nous, au plus près du territoire, au plus près des besoins, qui ne soient pas un barrage. Voilà, il semblerait. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous bercer d'illusions et moi-même, je ne veux pas m'en bercer. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si j'étais assez clair. S'il y a des questions.
Pour continuer, Jean-Claude, qui est membre du groupe des habitants d'ici et d'ailleurs, qui sont organisateurs de cette journée, va nous faire le, non pas le point, mais le rappel de ce qui s'est passé le 25 octobre 2014, jour où, où Rémi a perdu la vie.
Alors, je ne vais pas tout raconter. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sans doute savent ce qui s'est passé, mais je vais mettre l'accent sur, enfin faire le point sur deux ou trois choses. Bon, la première, les recours de la famille de Rémi, où est-ce qu'ils en sont ? La dernière fois, donc le dernier jugement, donc ça a été un non-lieu pour le gendarme, et donc en fait ça c'était l'appel, et donc ils vont se pourvoir en cassation. Et normalement, dans l'été 2021, il va y avoir ce jugement. Ils sont en train de se préparer à ça. Et puis, en dernier recours, parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'espoir malgré tout, ce sera au niveau de la Cour européenne. Alors, pourquoi il n'y a pas trop d'espoir ? Parce que le gendarme en question était considéré comme, disons, normalement, quoi, il obéissait aux ordres. Et donc, je voudrais revenir là-dessus, sur cette question de l'égalité ou pas de ce qui s'est passé à ce moment-là et de l'intervention de la police. Je voudrais rappeler des choses pour les gens qui l'ont vécu, mais peut-être qu'ils l'ont un peu oublié, ou pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Alors, ce qui s'est passé le 25, c'est carrément ce qu'on appelle un scandale d'État. Hein. Donc, pourquoi ? Parce qu'il devait y avoir personne sur la zone, il devait y avoir aucune force de l'ordre sur la zone ce jour-là. De la même façon que chaque fois qu'on avait fait un pique-nique précédemment, les semaines précédentes, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'y avait pas de. La seule chose qu'on voyait de temps en temps, qu'on entendait, c'était l'hélicoptère. Mais il n'y avait pas un flic, rien du tout. Bien. Et. L'arrangement s'est fait au niveau du préfet, hein, donc quand on avait prévu de faire ce rassemblement le 25, donc il y avait un engagement de la part de la préfecture, il n'y aura pas de force de l'ordre. Et pour ça, en fait, ça veut dire aussi qu'il ne devait pas y avoir de matériel. Comme précédemment, il n'y avait jamais de matériel sur la zone. Tout était, disons, nickel, dégagé. Il n'y avait pas de prétexte, il n'y avait pas de motif à dégradation de quoi que ce soit. Je voudrais remettre ça en tête parce que quand on parle de violence, en fait, il faut avoir en tête que ça a été une organisation de la violence par le pouvoir. Hein ? C'est ça le truc. Comment est-ce que le pouvoir a opéré ? Eh bien, de la façon suivante, c'est qu'ils ont laissé traîner deux ou trois bricoles, c'est-à-dire un Algeco et un générateur. Sur la zone des travaux. Quand les gens sont venus de l'extérieur, appelés par toute la campagne de publicité, tout l'appel qu'on avait fait pour être présents ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin, les uns et les autres, ils sont allés voir sur le chantier. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu ça qui traînait, ils ont foutu le feu, quoi. Enfin, normal. Et à ce moment-là, immédiatement, très rapidement, on a eu l'intervention des gardes mobiles qui sont restés donc cette première nuit, la nuit du vendredi au samedi, et puis bien sûr la nuit en question du samedi au dimanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce rassemblement, on savait, et ils le savaient également, qu'il y aurait du monde. Il y aurait plusieurs milliers de personnes. Combien ? Je ne sais pas. En fait, ça a été un truc qui a été assez important, quoi, qui a été couvert nationalement. Donc il fallait produire des images de violence. Et pour produire des images de violence, il fallait tout simplement mettre une sorte d'appât dans lequel, ça s'est passé comme ça, et qui a justifié donc la présence des flics toute la première nuit, toute la journée, et puis la nuit en question. Alors, pour ce qui est encore une fois de la question de la violence, qui a été le plus violent, bon, etc., qui est une question assez oiseuse quand même, hein, il faut le dire, parce qu'il faut avoir en tête quelques faits assez simples. Il y a eu 700 grenades qui ont été balancées cette nuit-là, d'accord ? Dont 70 qui étaient des grenades de guerre OF-1, dont celle qui a tué Rémi, qui ont été lancées donc, en pleine nuit à l'aveuglette. Donc ça a été très, très, très risqué, très dangereux. Il y avait toutes les conditions réunies pour que... Alors ensuite, comment dire ? la chaîne de commandement. Qui a dit quoi à qui pour, est-ce qu'il fallait être apaisé ou est-ce qu'il fallait être sévère ? Ben, on n'en sait rien, justement, parce que le dossier a pas été, le dossier a été fermé. On ne sait pas si ça vient du ministre de l'époque, Premier ministre Valls, si ça vient de Cazeneuve, si ça vient du préfet Gentilhomme, si ça vient du flic, enfin, de la gendarmerie locale. On n'en sait trop rien, parce qu'en fait, il paraît, les uns et les autres, tout le monde dit on avait des consignes d'apaisement. Tout le monde dit ça. Enfin, Gentilhomme a dit j'ai donné des consignes d'apaisement. Bon. Et puis les flics, certains ont parlé en disant non, on avait des consignes, disons, il fallait qu'on soit sévère, il fallait qu'on tienne. Qui dit vrai, on n'en sait rien, parce qu'en fait, l'omerta a été mise sur ce dossier. Je voudrais rappeler une dernière chose à propos d'omerta, c'est que le projet sera déclaré illégal. Le projet donc était illégal. Donc c'est le tribunal administratif de Toulouse qui a fait ce jugement-là en 2016. Le projet était illégal. Il fallait pas le faire, c'était pas bien. Mais par contre, le chantier n'a jamais été déclaré illégal. C'est-à-dire la DIG, déclaration d'intérêt général, n'a jamais été annulée. Et c'est là-dessus que, actuellement, disons, le pouvoir se base pour dire, non, on est en service commandé, et il n'y a pas de, il y a rien à voir, circuler quoi. Voilà, merci.
C'est pas si tôt que les hommes sont frères, et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et ses affluents. C'est triste et déprimant. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout, tout se passe par en dessous. De mémoire de grincheux, jamais dans les yeux, on ne vit qu'en regard haineux. Ah, y en a-t-il de cette haine qui, sous les esprits, qui renie la fraternité et répudie l'altruisme aussi. Hélas, hélas, l'altruisme est foutu, il n'y a pas plus d'altruisme que de l'or au but. Il n'y a plus que de la haine, si bien que dans tout le pays, bientôt tout le monde a un i. Alors comme c'est une tégolienne, on chante ensemble. La hi, la hi, la hi hi.
La hi, la hi, la hi ho.
La hi, la hi, la hi hi.
La hi, la hi, la hi ho.
Mais là où ça se complique, où ça devient tragique, c'est que la haine devient pour chacun une espèce de besoin que d'éternel sagouin entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine standard de circonstance. Il y a de la haine de bon ton pour les haineux de salon et de la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter de tête d'haineux. C'est un cercle vicieux, car quand ta haine est un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï, haïssant celui dont il est haï, chez haï, donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte, on peut le dire comme ça, haï ici et haï là. La hi, la hi, la hi, hi. La hi, la hi, la hi, ho. La hi, la hi, la hi, hi.
La hi, la hi, la hi, ho.
Et voilà, c'est comme ça qu'on est à tour de bras. N'importe qui, n'importe quoi, tout le monde est son père, ou la crème de Chester. Et qu'on se trompe de colère, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de rassembler partout la terre tous les hommes généreux qui, d'un cœur valeureux, haïssent la haine et les haineux. C'est ce qu'il y a de mieux. Hardi donc, allons-y rouler tambours et sonner trompettes et hélicons. Suce à ceux qui suent la haine par tous les ports et qui sont un sport d'haïr de plus en plus fort. Ah bah la haine et les haineux, ainsi que ceux qui hurlent avec eux. À ces gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Haine par-ci, haine par-là, y en a-t-il la haine?
haine par-ci, haine par-là, y en a-t-il la haine? Haine par-ci, haine par-là, y en a-t-il la haine? Haine par-ci, y en a-t-il la haine? Ici, haine par-ci, haine par-là, y en a-t-il la haine? Haine par-ci, haine par-là, y en a-t-il la haine? Ici,
au plaisir.
Vous écoutez Gardarem la Terre sur Radio Albigès, aujourd'hui un magazine consacré au rassemblement du 25 octobre 2020 à Sivens, en hommage à Rémi Fraisse et toutes les victimes de violences policières et contre les projets destructeurs de l'environnement.
Là, nous allons donner la parole à un ami qui nous vient de Lannemezan. Il est syndicaliste et il va faire le point sur la bataille qu'ils sont en train de mener contre la mise en place d'une méga-série qui va mettre à mal les forêts du coin, puisque certaines sont prévues à être rasées à blanc. Il va nous expliquer ça en détail. Il s'agit de Daniel.
Oui, merci. Alors, je voudrais de suite faire un démenti par rapport à ce qui vient d'être dit. Pardon de le dire comme ça. Nous n'avons, que ce soit au niveau du collectif SOS Forêt Pyrénées ou au niveau du collectif Touche pas à ma forêt Pyrénées, on n'a jamais écrit qu'il était question de faire des coupes claires ou des coupes rases dans les Pyrénées. Bon, par contre, il sera peut-être potentiellement et possiblement mis en place de la surexploitation. Voilà. Mais c'est une nuance, quoi. Donc ça, c'était important, je voulais le préciser, parce que ça a été aussi écrit dans le journal Reporter qui a annoncé cette journée d'aujourd'hui. Et donc là, je voudrais vraiment affirmer cette situation. Hein. Nous, on n'a vraiment jamais écrit de coupe claire ou de coupe rase, de la surexploitation possiblement. Alors, par contre, c'est Bérangère qui m'a demandé de venir donc, et de parler de ce projet industriel au niveau de trois points, qui étaient la forêt des Pyrénées, donc le projet lui-même et la lutte en place, et ce qui est revenir, à titre d'information, sur les manifestations qui ont eu lieu samedi et dimanche dernier, sur les Pyrénées et à Lannemezan en particulier. Sur la forêt des Pyrénées, donc c'est principalement la hêtraie des Pyrénées, donc c'est une forêt qui est située entre 800 et 1200 mètres d'altitude, donc qui part en gros de l'Aude jusqu'à Bayonne, où il y en a très très peu sur les Pyrénées orientales. Donc c'est une forêt qui est jeune, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est une forêt qui a été exploitée, voire surexploitée, à partir du 17e, 18e et surtout au 19e siècle, avec une surdensité de population qui allait beaucoup dans les forêts et qui vivait dans la forêt, et surtout, bon, par exemple, en Ariège, avec des prélèvements importants pour la métallurgie. Une fois que la métallurgie s'est arrêtée, la forêt s'est reconstituée, et à partir des années 70, s'est mis en place des réseaux de desserte qui ont recommencé les exploitations. Donc c'est une forêt relativement jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forêt qui a entre 80 et 150 ans. C'est une forêt où il y a en fait très très peu de très très gros bois et de gros bois. Or, on sait que ce sont ces arbres-là qui sont très intéressants pour le captage du carbone et la biodiversité. Or, depuis une quarantaine d'années, suite à la mise en place des réseaux dessertes, ces bois-là ont été pas mal exploités, donc il y en a très très peu. Il en reste très très peu dans les Pyrénées, sauf dans les parties qui n'ont pas desservi, donc dans les coins les plus reculés des vallées forestières. Voilà en gros pour vous situer la forêt des Pyrénées. Alors cette forêt aussi, elle a une particularité, cette hêtraie des Pyrénées a une particularité, c'est que c'est pratiquement une forêt relativement pure, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de sapins, ou en tout cas à certaines zones il y a peu de sapins, parce que les populations locales ou les forestiers ont privilégié plutôt le hêtre au dépens du sapin, parce qu'il y avait plus d'avantages au niveau du hêtre, notamment par exemple pour la métallurgie ou aussi pour le bois de chauffage ou aussi pour le pacage des animaux. Alors là, donc, on voit que c'est une forêt qui est relativement un peu déséquilibrée et depuis une vingtaine d'années, les forestiers essayent de retrouver cet équilibre entre sapins. Sapins et hêtres, et d'autres essences qui seraient intéressantes au niveau de la biodiversité, comme les frênes, les érables sycomores, ou un autre résineux qui a aussi disparu, qui est l'IF, Taxus bagata, et dont l'écorce est intéressante pour le traitement du cancer, par exemple. Voilà un peu le point sur la hêtraie. Sur le projet lui-même, donc ce qui est appelé le projet Florian. Alors Florian, c'est une multinationale italo-européenne, parce qu'il y a à peu près entre 15 et 20 scieries au niveau en Europe, deux en France, je crois, et après principalement en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, Pologne, etc. Donc ils sont, il y a une liaison entre la région, donc Occitanie, et la communauté de communes du plateau d'Almezan pour mettre en place cette méga-scierie. Alors méga-scierie, c'est un terme qui nous est reproché, qui nous a été reproché par la région et aussi par la communauté de communes, parce que bon, la plus grosse scierie en France, c'est 500 mm3. Alors là, la scierie de Lannemezan, ce qui est envisagé, c'est 50 mm3, donc 10 fois moins. En fait, 50 mm3 au niveau des Pyrénées, c'est une méga-scierie, parce qu'en fait, les scieries moyennes dans les Pyrénées, c'est entre 12 000 et 15 000 m3. Ce sont surtout des scieries familiales. Donc c'était le grand-père qui a mis ça en place, puis a été repris. Donc à 50 000 m3, c'est quand même relativement important. Pour que nous, on ait appelé ça méga scierie. Donc l'idée de cette scierie, c'est de récupérer le bois d'œuvre de hêtre de qualité, vraiment la très très belle qualité, qu'on retrouve dans les parties basses des grumes de hêtre. Et pour avoir 50 mm3 de hêtre à la porte de l'usine, il faut, nous d'après les calculs qu'on a pu faire, il faut abattre entre 400 000 et 550 mm3 de bois par an. Alors qu'aujourd'hui, Le prélèvement dans la hêtraie est d'environ 120 000 m3 de bois. Donc vous voyez, c'est pratiquement 5 fois plus. Donc ce qui nous a alerté sur ces volumes-là, et d'après les études que nous on a pu faire, la ressource demandée par le scieur n'est pas disponible. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, donc c'est ces gros bois, ces très gros bois, donc qui ont été passablement exploités. Et là où on pourrait en trouver, c'est dans des parties des Pyrénées qui ne sont pas desservies, c'est-à-dire où il n'y a pas de réseau routier, pas de piste. Donc voilà, les citoyens ont été alertés par ça, un collectif s'est mis en place depuis Bayonne jusqu'à Perpignan. À partir du mois d'août, on a mis en place pour alerter les citoyens des réunions d'information, où à chaque fois on avait entre 150, 200, 300 citoyens qui sont venus, donc ce qui nous a fortement alertés par l'intérêt que pouvaient porter les gens. En fait, les gens, ce qui intéresse les gens dans cette lutte-là, c'est le sujet de la forêt et de la montagne, en fait. C'est parce que bon, voilà, les Pyrénées sont très attachées. Donc là, pour le moment, on a été reçu par la région, le préfet, le président de la communauté de communes. Et donc, en bataille, on a créé une asso. Bon, on a entre 450 et 500 signatures de courrier électronique. On a pas mal de commissions qui se sont mises en place dans ce collectif citoyen. Et donc samedi dimanche dernier, on a fait cette première grosse manifestation avec des démarches, donc à Saint-Girons, des marches citoyennes à Saint-Girons, Aspé, Bagnères de Bigorre et Oloron-Sainte-Marie, et une grosse marche citoyenne aussi le dimanche sur entre Cap-Verne et Lannemezan, en tout, en gros, 2500 personnes. Donc pas mal de couverture locale au niveau des médias et au niveau des télés, et aussi un début de couverture médiatique au niveau national. Donc là, la prochaine grosse étape, c'est d'arriver à écrire, en fait, ce qu'on a appelé une ambition alternative, c'est-à-dire comment on pourrait recréer une filière bois. Par exemple, en partant sur des circuits courts, comme ça a pu se faire avec le bio il y a une trentaine d'années, parce que ça, les pouvoirs publics n'avaient pas du tout imaginé que ça puisse se mettre en place. Ce qui a commencé à se réaliser sur l'Ariège, dans le parc naturel d'Ariège, par exemple. Voilà, donc on en est là. Et il y a quand même tout ne se passe pas forcément toujours bien, puisque dans ce collectif, on est environ entre, il y a environ 45 organisations de tout poil, les partis politiques, des syndicats, des assos, des ramasseurs de champignons. Enfin, c'est vraiment très, très diversifié. Et donc, il y a une, on va dire, des... peut-être une difficulté à essayer de mettre tout le monde sur le même, la même longueur d'onde, tant au niveau du vocabulaire, de la pensée sur la forêt, etc., etc. Donc c'est à la fois, il y a deux combats contre Florian et à l'intérieur pour arriver à essayer d'unifier. Mais le point très positif, c'est qu'il y a un très très fort intérêt pour comprendre le sujet de la forêt en tant que tel. Parce que c'est quand même très complexe entre la sylviculture, la phytosociologie, la botanique, enfin, c'est très, l'exploitation forestière, l'histoire forestière, comment se sont comportés les gens, etc. Donc c'est très très... Et donc il faut arriver à tirer le fil de tout ça pour que tout le monde arrive à être au même niveau de compréhension. Voilà, merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce magazine Garde Arem La Terre, consacré à la journée de mobilisation du 25 octobre 2020 à Sivens. Merci de l'avoir écouté avec nous, merci à toutes les personnes que vous avez entendues au micro. D'autres échos de cette journée vous seront diffusés dans les prochaines semaines sur Radio Albigès. On rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en podcast, en passant par notre site radioalbigès.com ou bien par notre page Facebook Radio Albigès.